Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, devinez dans quel chapitre nous pouvons lire aujourd'hui. Hein ? Alors, chapitre 2, ce n'est qu'une introduction certainement peut-être à d'autres rendez-vous que nous aurons autour de ce phénomène que l'on appelle le phénomène de la Pentecôte. On y reviendra, mais bon, je pense qu'aujourd'hui il va y avoir plutôt un caractère historique, mais tout en mettant l'accent naturellement et bien sûr ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous, cette grâce que Dieu nous a faite, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors je vais lire, nous allons lire ce passage, et puis j'y apporterai quelques mots de commentaire avec une confrontation avec un autre texte de l'Ancien Testament. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? » Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs. » Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9 heures le matin. Je précise. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là. Je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Du sang, du feu, de la vapeur, de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pour notre première lecture. La seconde, nous allons la faire alors très très en avant, livre de la Genèse. Et assurément, il y a une grande similitude entre la Pentecôte et la tour de Babel. Ça vous étonne peut-être, mais il y a quelque chose qui est très intéressant à considérer. Une grande histoire qui va se dérouler et une histoire qui va suivre deux directions différentes. C'est ce que je vais tendre à expliquer ce matin. Alors, Genèse, je vous ai pas dit chapitre ? Non, alors excusez-moi. 11. Chapitre 11, Genèse. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voyez ? On a compris déjà. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Sur la face de toute la terre, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent pas la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la terre, sur la face de toute la terre. Voilà pour ces deux lectures nécessaires, hein, parce que si nous voulons comprendre le sens de cette méditation, eh bien, je pense qu'il était bon de faire ces deux lectures. Un fait marquant dans la Bible, je dirais un jour, je parle de la Pentecôte, un jour inscrit à jamais dans l'histoire de l'humanité, la Pentecôte est le jour où Dieu a ouvert de nouveau les écluses des cieux, les écluses célestes, pour déverser sur sa créature, c'est-à-dire sur les hommes que nous sommes, les flots puissants de la vie divine. Et ça, c'est important de le marquer. Dans le texte que nous avons lu, il est question, citation de Pierre, Joël, où il est dit ceci, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. » Je répandrai de mon esprit. Vous savez que les portes des cieux avaient été fermées. Et cela nous est bien clairement exprimé dans la Bible. Elles avaient été fermées sur ces paroles que nous trouvons encore dans le livre de la Genèse. Parce que méditer la parole, c'est tourner aussi les pages. Et de prendre en considération, eh bien, non pas un texte pour l'isoler et sortir de son contexte, mais de pouvoir avoir une notion de toute l'histoire que Dieu nous raconte à travers ce livre. Et un jour, les portes avaient été fermées par ces paroles. Dans Genèse chapitre 3, mais je simplement restitue ce qu'il est dit, il nous est dit que l'Éternel à Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les !» Comme dans le livre de Babel, l'histoire de Babel, « Empêchons-les de maintenant d'avancer la main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Il est question de mots assez forts. Dieu chassa. Dieu a dit, eh bien maintenant, eh bien nous allons les disperser. Nous allons les répandre sur toute la terre. Et ça, nous pouvons dire que les portes des cieux avaient été fermées à ce moment-là. Et nous voyons que l'histoire de Babel, c'est tout simplement une révolte contre eux. Ce Dieu qui, eh bien là, avait retiré sa vie, son esprit de l'homme. Et de dire, eh bien, si Dieu ne descend pas sur terre, c'est nous qui allons monter au ciel. Alors, ils n'ont pas trouvé autre chose que de faire une tour pour monter au ciel. Enfin, ils avaient encore quelques années-lumière. Si on compte d'une manière astrologique... astronomique, je rectifie. Attention. Pour justement, eh bien, monter au ciel. Le péché, nous savons, a porté un coup mortel à l'homme en le privant de la gloire et de la puissance que Dieu lui avait donnée, lui avait confiée, en un mot, de la vie de Dieu, tout simplement. Et ce que Dieu lui avait dit, je te donne les fruits de l'arbre de vie. Mais comme l'homme, eh bien, a écouté une autre voix, eh bien, il a perdu les fruits de cet arbre de vie. C'est l'histoire qui nous est racontée, et vous la connaissez aussi bien que moi. Alors donc, chassé, banni, tout simplement, la créature humaine a perdu ainsi sa vie véritable et a perdu naturellement sa source, puisque la vie véritable, c'est Dieu. Et la source de la vie, c'est Dieu. On pourrait peut-être comparer l'homme depuis, eh bien, tout simplement, à une branche séparée du tronc. La Bible va jusqu'à présenter l'humanité comme, ou l'homme, tout simplement, comme un misérable ver dont l'existence désormais sera de souffrir et sa destination de mourir. Et nous le savons trop bien. Même si Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, donne aussi la paix, enfin, la joie, en tous les cas, dans la vie des hommes aussi. Ça fait partie aussi de cette existence. Mais quand même, je crois que elle est marquée par, cette existence est marquée davantage par la souffrance, par le souffrir et le mourir. Alors, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme, sa source vitale de renouvellement, une source qui est à la fois une source temporelle, mais aussi une source éternelle, une promesse d'éternité. Esprit de vie impérissable, comme le définit Jésus à travers ses paroles, voyant ses contemporains venir à une certaine fête, qui était la fête aussi des tabernacles, la fête de la Pentecôte, lorsque Jésus dira ces paroles, voyant certainement l'indigence morale et spirituelle de son peuple, peuple d'Israël, peuple pourtant qui avait un sacerdoce, qui avait un temple, qui avait des sacrificateurs, qui avait des lévites, qui avait des docteurs de la loi, mais ça n'a rien suffi, ça n'a pas suffi, puisque finalement il y avait bien tout ça, mais l'esprit était parti. Alors, quand l'esprit n'est pas là, l'esprit c'est la vie, quand l'esprit est parti, c'est la mort, forcément. Et Jésus dira ces mots, « Fleuve d'eau vive qui couleront de son sein. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » À la Samaritaine, il tient exactement le même langage. Une perte, nous pouvons dire, et je le souligne ce matin, une perte irremplaçable. Il fallait qu'il y ait une intervention de Dieu pour ramener la vie sur terre. Remplacer, certes, parce que l'homme, finalement, à défaut de cette vie de Dieu, eh bien, il a trouvé des substituts. Il a trouvé des moyens de remplacement, comme finalement, eh bien, l'homme sait le faire, c'est-à-dire la vie par la mort, le bonheur par la douleur, la confiance par le désespoir, l'amour par la rébellion, par la haine, par l'égoïsme, par l'orgueil. Voilà l'homme sans l'Esprit de Dieu. Et pourtant, même si Dieu est absent, même si la vie de Dieu est absente, même si l'Esprit de Dieu est absent, le monde continue quand même à vivre. Mais il vit pour aller vers la mort. Et c'est ça le drame. On pourrait peut-être parler d'aujourd'hui d'un estropié qui s'ignore, d'un mutilé qui se croit valide, mais qui a perdu l'essentiel. Et cet essentiel nous est rappelé dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Cette illusion, funeste illusion, dramatique illusion qui est rappelée par l'Esprit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, vous vous souvenez, dimanche dernier on en a parlé. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, parce que tu ne vois pas ta pauvreté, tu es aveugle et nu. Oui, la nudité. Nudité spirituelle. Essor brisé dans cette humanité qui a été lancée dans sa carrière par les mains géniales de Dieu. Destination manquée, l'homme sans Dieu ne pouvait vivre ni heureux, ni mourir en paix. C'est bien ce qui se passe. D'une façon ou d'une autre. Alors il avait besoin, excusez-moi l'expression, mais je la prends à dessein ce matin, comme quand quelqu'un est à l'hôpital, comme quelqu'un est mourant, comme quelqu'un est très malade, l'homme avait besoin d'une transfusion, non pas de sang, mais de vie. Il fallait qu'une vie soit donnée pour se transfuser dans un corps moribond, pour que la vie revienne. Une transfusion d'esprit. C'est-à-dire de la vie divine qui devait revenir. Et ça, c'est le miracle de la Pentecôte. Parce que c'est un fait important, la Pentecôte. J'ai lu en introduction, pour ceux qui étaient déjà là à ce moment de prière ce matin, j'ai lu la vision des ossements d'Ézéchiel. C'est un texte assez pathétique. Hein, c'est un texte là qui nous donne un petit peu des frissons dans le dos, vous vous rendez compte, hein? Une visite dans un cimetière, enfin, c'est ça en quelque sorte. Hein. J'ai des mots peut-être un peu crus, mais c'est quand même la réalité de l'humanité. Alors, on a vu que par 8 fois, le mot esprit est répété en l'espace de quelques versets. Dieu a en vue, pour le jour de la Pentecôte en quelque sorte, pour Israël notamment, eh bien qu'il y aura un souffle nouveau qui viendra sur la terre et les hommes reprendront vie. Ces os se dessécher, cette chair qui va croître, et puis ces muscles qui vont, mais ils peuvent s'animer, c'est vrai, il peut y avoir une animation de vie, mais c'est pas la vraie vie, il faut qu'il y ait l'esprit par-dessus tout cela. C'est bien l'histoire, c'est bien la constatation que nous faisons avec notre humanité. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le monde autour de nous, qui sont peut-être encore en meilleure santé que nous, qui bougent peut-être encore plus que nous, qui disent, eh bien voilà, je vis, mais qui n'ont pas la vraie vie. C'est ce que nous étions auparavant, hein, parce que je ne jette la pierre à personne naturellement. Maintenant, nous ne pouvons écarter l'auteur naturellement d'une telle entreprise, d'un tel miracle. L'auteur de ce miracle, c'est Jésus. Parce qu'à partir du moment où Jésus est venu sur la terre, eh bien là, quelque chose est arrivé dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme. D'abord, en ce qui concerne Jésus, Jean-Baptiste nous le présente comme le dispensateur de la flamme et de la vie divine. Dans Matthieu, et peut-être pouvons-nous retourner dans ces textes, dans Matthieu chapitre 3 et verset 11, c'est très bref, hein, mais il est dit ceci, en parlant de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui annonce, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il vous baptisera d'eau. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est ce qui nous est dit hein, dans ce texte. Jésus n'a pas fait seulement que de donner sa vie immortelle, et je souligne le mot immortel, pour le salut d'âmes mortelles, à travers son sacrifice expiatoire, à travers eh bien, ce geste de rançon, à travers le jugement qu'il a pris pour chacun d'entre nous, mais il a été encore plus loin encore, il a voulu que sa vie se répande dans la vie même de ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire ses disciples. Et à travers, et la parabole qui illustre bien cela, c'est l'histoire du cep et du sarment, la sève divine qui monte, qui là va donner la vie à ce sarment. Mais dans la mesure où on reste attaché. C'est normal. Hein? Les transfusions médicales, il faut rester attaché à la bouteille. Hein? Non mais c'est vrai, enfin excusez-moi, façon de parler, hein. Vous avez compris, hein, faut pas automatiquement, parce que si vous voulez que ça passe, faut que ça reste là bien appliqué sur votre bras ou je ne sais pas dans quel hein. Transfusion de sa vie, transfusion de son esprit en eux. Dans l'évangile de Jean, où il y a ce merveilleux passage de l'Écriture, c'est cette prière que Jésus fait monter vers son Dieu, vers le ciel. Il dira moi, je prierai le Père. Et il vous donnera. Donc c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. C'est pas Marie. Excusez-moi de le signaler au passage. Hein? Ou c'est pas ceci ou cela ou autre chose. C'est bien moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Parce qu'avant, eh bien, il n'y avait pas d'avec. L'esprit de vérité, pour le décrire, hein, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point, mais vous, écoutez bien la suite, parce que c'est un texte fondateur pour le baptême du Saint-Esprit et la vie de l'Esprit, vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Transfusion. C'est pas seulement de l'avoir avec nous, mais de l'avoir en nous. Je ne vous laisserai pas orphelin, nous dit Jésus. Je viendrai à vous. Donc c'est encore Dieu qui fait le premier pas. Vous me verrez, car je vis. Et pourtant, Jésus va disparaître. Mais il dit, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. C'est-à-dire, la vie qui est la mienne, eh bien, moi, elle va passer dans la vôtre, et parce que je vis, vous vivrez avec moi, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est ce que l'on peut appeler cette rencontre et cette réunion entre le Créateur et la créature, entre l'homme et puis son Sauveur. Mais plus que cela, ça ne s'arrête pas à la croix. Ça s'arrête, ou je dirais que ça ne s'arrête pas, ça commence à la Pentecôte. Cette promesse. La Pentecôte, pouvons-nous dire, si je l'explique de cette manière, a été la réalisation de cette transfusion de vie. Plus encore, une effusion, on parle bien d'effusion du Saint-Esprit, une effusion sur et dans notre vie d'homme. Alors il y a eu toute la période évangélique où Jésus guérit les malades, où Jésus fait des choses extraordinaires. Et puis, il y a la passion, il y a la croix, il y a la résurrection. Et puis, il y a l'ascension de Jésus. Mais il y a aussi la Pentecôte. Alors seulement, et seulement à ce moment-là, un nouveau type d'homme est né. Un homme qui va se redresser de sa misère, qui va secouer les chaînes de son esclavage. Et il va devenir libre. Il est animé par un souffle de vie dynamique. Et on le voit, le souffle de apostolique à ce moment-là va se mettre en marche. Il entreprend avec force et avec la force de Dieu une œuvre gigantesque de restauration. D'abord, c'est Dieu qui va d'abord impliquer une restauration intérieure. une restauration spirituelle, une restauration morale, que l'on appelle tout simplement la régénération. Mais l'homme qui maintenant va avoir, eh bien, cet esprit de Dieu en lui, va être envoyé, et c'est là où nous parlerons de Babel tout à l'heure, va être envoyé aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il va y avoir une restauration extérieure, celle du rétablissement du royaume de Dieu, ou de l'établissement du royaume de Dieu, pour donner une suite glorieuse, œuvre qui a été commencée par Jésus. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 1er, il est donné de comprendre ceci. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'entreprendre. Il a commencé à faire. Et voilà que maintenant, après lui, les disciples, les apôtres, les ministères, les frères et les sœurs vont rentrer dans une nouvelle œuvre pour construire le royaume, pour apporter le témoignage du royaume. Mais il faut qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu pour ça. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Une œuvre extérieure, et ça, c'est le but de la Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, ils restent pas tous ensemble. Ils vont essayer de rester tous ensemble, mais il va y avoir des persécutions qui vont les disperser. Et là, ils vont prêcher le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis des siècles, ou plutôt, disons-le de cette manière, depuis les siècles ont défilé, les civilisations incrédules ont péri, les plus grands empires se sont succédés, mais une œuvre, celle que nous pourrons appeler celle, l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans l'homme, n'a jamais cessé de grandir, de sauver, de guérir, de délivrer, d'affranchir, de donner la vie. Cette vie qui vient d'en haut. Et tout cela nous est venu à partir de la Pentecôte. Et c'est pour cela que nous retournons à notre premier texte lu tout à l'heure, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et nous allons parler maintenant du vent de Dieu. Parce qu'il s'agit du même mot, souffle, vent, esprit. Rappelons-nous quelques instants l'enseignement de Jésus à Nicodème. Que dit-il à cet homme, qui est un homme établi dans la foi en Dieu, dans sa croyance en Dieu, docteur de la loi, éminent pharisien, enseignant les autres, mais qui ne comprend pas l'essentiel et l'ABC, finalement. Et il lui dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, certes. Mais tu ne sais pas, Nicodème, comme nous-mêmes, tu ne sais pas d'où il vient, où il va, il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Parce que si tu restes comme ça, drapé dans ta belle religion d'israélite, eh bien, c'est vrai que ça fait bon effet. Mais c'est pas pour ça que tu es sauvé. C'est pas pour ça que tu as la vie éternelle, Nicodème. Certainement pas. Écoute ce que j'ai à te dire. Ce vent de l'esprit qui ramène la vie, qui fait monter la sève divine dans l'âme desséchée, qui produit à la fois réveil et renouveau dans le monde, partout justement, eh bien, où cet esprit demeure dans des hommes nés de nouveau. Et à la Pentecôte, un vent comme il n'y en a jamais eu sur la terre va se lever. Il y avait déjà eu le vent du temps d'Élie, vous savez. Il y avait eu des grands vents qui ont séparé la mer Rouge. Il y a eu toutes sortes de manifestations du vent de Dieu. Mais là, c'était unique. Et nous voyons qu'à la Pentecôte, le vent, pour la première fois, s'est levé et a tout animé. C'est, nous pouvons dire, ce que nous avons vu dans la prophétie d'Ézéchiel, quelque part. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Celui-ci, il ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Sud ou du Nord, mais celui-ci, il vient directement du ciel. C'est bien la différence. Le vent qui pousse les grands navires. Aujourd'hui, maintenant, c'est la marine à vapeur, c'est autre chose. Le vent qui change les climats. Le vent qui allume et qui attise les incendies. Le vent qui érode le sommet des montagnes. Le vent qui agite furieusement les océans, nous l'avons vu dans la catastrophe récente. Ce même vent qui soutient l'oiseau dans son vol. Vous avez vu, quelquefois c'est magnifique. Quand on voit un oiseau, il bouge pas et il se laisse porter peut-être quelquefois pendant je ne sais pas combien de temps. C'est extraordinaire tout cela. Qui porte délicatement le pollen sur le pistil pour donner la vie. Parce que ça aussi, on le voit pas. Mais pourtant, il y a quand même une œuvre qui se fait, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de renouvellement parmi les végétaux. Et c'est ce même vent Ce même vent, cette même force, tantôt redoutable, qui est capable de tout casser, de tout briser. Et puis, d'un autre côté, tantôt caressante, qui allie la douceur avec l'énergie. Et c'est une œuvre qui se fait. Et ça, nous les hommes, nous ne pouvons ni comprendre ni saisir tout ce qui se passe. Alors, si c'est le vent des hommes et le vent de la terre, comment pouvons-nous comprendre le vent de l'esprit ? Mais qui fait tout à la fois, qui est capable de fracasser les montagnes, mais qui est capable de porter, finalement, je le disais tout à l'heure, eh bien là, le pollen d'une étamine sur un pistil, avec une telle délicatesse que demain il y aura la vie. C'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, celui du Saint-Esprit qui agit comme une merveille dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire des hommes. Encore quelques exemples, si vous voulez. Ce vent impétueux brise les cœurs les plus rebelles. Et là, je parle au niveau spirituel. Dans Jean, chapitre, mais ne cherchez pas parce que vous connaissez les textes, chapitre 16 et au verset 6, il nous est dit que ce vent-là est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement et de courber les plus endurcis et les plus raides. Il casse l'homme, mais pas pour le casser, mais pour le relever. Et puis, il nous est parlé également à travers d'autres textes que ce même vent qui est capable de faire des choses redoutables pour amener les pécheurs à pleurer devant Dieu, il est capable aussi de consoler les affligés, pour sécher justement leurs larmes. Vous savez que le vent, il sèche la pluie aussi, hein, mais il sèche aussi les larmes. Et il est appelé de ce nom de paraclète, hein, avocat, celui qui plaide, défenseur. Il enseigne, il instruit. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 3, il nous est dit qu'il porte au loin la voix de l'évangile hardiment. Dans le livre des Actes, le livre que nous avons lu tout à l'heure, dans ce texte, je reprends simplement parce que, pour mémoire, il est dit ceci au chapitre 1er, au verset 18. Voilà, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, portés au loin. » Comment ces hommes, qui ont eu peur et qui n'étaient même plus à la croix à ce moment-là, se sont trouvés investis d'une force extraordinaire et d'une parole que personne ne pouvait résister. Je pense à Pierre, mais je pense à Étienne aussi, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et même les érudits de ce temps, les docteurs de ce temps ne pouvaient même pas résister à leur sagesse. Extraordinaire, la puissance du Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit, l'intelligence du Saint-Esprit. Puis il y aurait bien d'autres textes à citer, mais je passerai rapidement. Alors viennent, hélas, que l'Église d'hier et l'Église d'aujourd'hui oublient sa mission, le vent cesse, tout devient pesant, et là l'Église de Dieu tombe dans le formalisme. Et on le sait, puisque, hélas, peut-être, et ce n'est pas à moi de faire la comparaison, mais peut-être qu'il y a-t-il plus d'Églises qui se réclament de Dieu formelle que d'églises qui sont animées par le souffle de l'esprit. C'est le silence et l'immobilité du tombeau à ce moment-là. Et c'est vrai que quelqu'un a dit, et quand on voit tous ces grands monuments, finalement qui évoquent la religion, qui évoquent Dieu, qui évoquent la croyance des hommes, on se dit que, eh bien, les monuments restent, mais l'esprit s'en va. Et il vaudrait mieux que les monuments disparaissent et que l'esprit reste. Ça changerait beaucoup de choses. La vie s'éteint tout à nouveau. Et puis tout retombe dans le silence. Mais, au verset 3 et 4 de notre texte, il nous est dit des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience. Excusez-moi, ce n'est pas de la théologie. C'est peut-être de la théologie, mais c'est pas la théologie qui vient en premier. C'est peut-être de la doctrine, mais c'est pas la doctrine qui vient en premier. C'est une expérience. Une expérience formidable, extraordinaire, et tout ce que nous sommes ce matin. Nous pouvons bénir le Seigneur de nous avoir fait rentrer dans une église, un moment ou un autre, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom qu'elle porte, mais une église où il y a la vie de l'Esprit, où il y a le baptême du Saint-Esprit, où il y a la vie nouvelle, où il y a véritablement, eh bien là, quelque chose que l'on appelle les charismes, la vie spirituelle, le souffle de l'Esprit. Moi, je bénis le Seigneur de pouvoir être rentré un jour dans une église, c'est vrai, évangélique, où là, il y a véritablement, eh bien, à la fois l'enseignement, donc la doctrine, mais l'expérience. Parce qu'il y a bien des églises où il y a de la doctrine, mais il n'y a pas l'expérience. un baptême de feu. Nous avons-nous lu dans ce que Jean baptise, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit pour accomplir une œuvre colossale. D'abord la gloire de Dieu, ça c'est le premier but, mais également réunir les hommes en un seul corps, faire un monde nouveau selon un esprit nouveau. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, et rapidement introduire notre récit de Babel, parce que c'est important de faire la comparaison. Je vous ai dit, une même histoire avec deux directions différentes. Babel au début de l'humanité, et puis la Pentecôte au début du christianisme, des temps apostoliques, des temps de l'Église chrétienne. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur Babel, les caractéristiques, la confrontation entre Pentecôte et Babel, évocation à coup sûr de deux humanités qui marchent à contresens l'une de l'autre. Et si l'on prend les similitudes, eh bien, si nous prenons les textes et que nous les avons en mémoire, je ne vais pas les relire, mais ils sont ensemble dans un même lieu. Pour les uns, c'est Jérusalem, pour les autres, c'est les plaines de Shinéar, dans un même lieu. Donc, rassemblement des hommes, ce que je retiens. À la Pentecôte, on s'attend à Dieu, on le prie, on s'attend à ce que quelque chose vienne du ciel. Mais à Babel, on ne regarde qu'à la terre, puisqu'on a évacué Dieu. Dieu est absent. On lui a tourné le dos. À la Pentecôte, ils sont tous assis. L'image d'être assis est l'image du repos, mais aussi l'image de la prière quelque part. Ils sont là à attendre. Ils ne sont pas sans rien faire, mais ils sont assis. Mais par contre, à Babel, ils sont debout, au travail, les armes, je pourrais dire, les instruments de travail à la main, et avec un slogan, tout simplement, allons, levons-nous et faisons quelque chose. Deux choses, hein, voyez, deux positions. Et puis, à la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit. Dieu les remplit du Saint-Esprit. À Babel, ils sont remplis de présomption. C'est une différence. C'est un autre état d'esprit, hein. L'orgueil, la présomption, l'ambition. À la Pentecôte, Dieu envoie le parler en langue. À Babel, il envoie la confusion des langues. Vous voyez ? On peut continuer comme ça. À la Pentecôte, ils sont dans une chambre haute. Et à Babel, ils sont dans une tour pour s'y renfermer. Cette tour, il va y avoir l'élite au sommet, parce que c'est toujours l'élite qui est au sommet, hein, vous savez, ceux qui mènent le monde. Mais dans les sous-sols de la tour de Babel, il y a tous les misérables, tous les esclaves. C'est bien la société d'aujourd'hui, vous comprenez ? Dans l'échelle sociale, dans l'échelle finalement de notre monde, hein. Les grands sont en haut, les petits sont sous la terre, là, en quelque sorte dans les décombres ou dans les caves. C'est ça, ils ne voient pas la lumière, cela. Alors, dans ce texte de Babel, il nous est dit au verset premier, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'est intéressant parce que c'est là où se trouve justement la comparaison et la similitude avec, eh bien, notre histoire de Pentecôte. Il s'agit de la famille humaine issue de Noé, qui connaissait un unique langage pour communiquer. On pourrait dire, c'est formidable. Pas toutes ces tracasseries de pouvoir avoir des traducteurs. Et puis, on poursuit, ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se sont dit, voilà une plaine qui est intéressante. Mais vous savez, il faut se méfier des plaines. Oui. Parce qu'il y en a un autre aussi qui a vu une plaine. C'était Lot. Vous connaissez l'histoire ? Ben, il est descendu de la montagne, et vous savez, c'est toujours mauvais de descendre, hein. Il vaut mieux pouvoir monter. Il est descendu, et puis il s'est dit, ben, ça c'est formidable, parce que c'est luxuriant. Hein, j'ai de l'herbe pour mes troupeaux et tout ça, mais finalement, il a tout perdu. Et là, ils ont trouvé une plaine, ils se sont dit, ben, c'est formidable. Et puis, nous voyons qu'apparaît déjà les premiers éléments symboliques qui marquent la révolte de la créature contre le créateur. C'est à Babel que il va y avoir véritablement là, mais en union, tous ensemble, en disant, maintenant, on va faire face contre Dieu. On n'est pas d'accord avec lui, on va lui faire face. Et cette humanité de Babel tourne résolument le dos à Dieu, puisqu'il nous est dit qu'ils sont partis de l'Orient. Et quand on prend symboliquement, parce que je parle d'une manière symbolique maintenant, l'Orient, là où se lève le soleil, c'est comme ça que ça se passe. Et vous savez, dans la Bible, il nous est parlé de Dieu comme étant le soleil de justice, la lumière des nations. Mais quand on tourne à ce Dieu qui est le soleil de justice et la lumière des nations, on ne peut aller que dans l'obscurité. C'est précisément ce qu'est en train de faire les habitants de Babel. Plus ils tournent le dos, plus ils vont vers les ténèbres en pensant aller vers la lumière. image de notre monde. Affligeante. Affligeante concertation également, qui a lieu dans cette plaine de Shinéar où les hommes vont conclure un solide pacte ensemble. Il nous est dit qu'ils se dirent les uns les autres. Ils parlent la même langue, c'est facile, hein. Allons, faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Beaucoup de choses à dire dans ce texte. Mais on va y aller, passer très vite. Ils se sont concertés. Vous savez, on est vraiment dans un temps où il y a beaucoup de concertations au niveau mondial des nations. On parle beaucoup de mondialisation aujourd'hui. Et cet homme, ce monde dans lequel nous vivons, même s'il a des apparences de christianisme, n'a rien à faire de Dieu, hein. Vous avez vu que je ne vais pas faire de politique parce qu'on va y arriver d'ici 15 jours, mais vous savez qu'il n'y a même pas un texte, il a été refusé par la France et d'autres pays, d'évoquer dans le texte de la Constitution européenne la notion de religion. Point, c'est un aspect des choses. Le contenu de cette entente est un défi jeté à la force de Dieu. Oui, Dieu est puissant, mais l'homme dit, moi, je suis aussi puissant que Dieu. Je peux me passer de Dieu, bien que Jésus nous ait dit dans l'évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ça, c'est oublié depuis longtemps. Dieu, pour quoi faire ? Se disent les hommes de Babel. Nous ferons le monde sans lui. Il est temps maintenant de faire quelque chose. On va pas rester comme ça, se regarder dans le blanc des yeux. Il va faire quelque chose ensemble. Alors l'homme s'installe. Il va se replier en quelque sorte sur son génie inventeur, parce que ça vient aussi de Dieu, mais il l'oublie. Sa créativité, parce que l'homme est créatif, il faut bien le dire, dans bien des sens. Il va se fier à l'habileté de ses mains, parce que Dieu lui a donné aussi de faire des choses intéressantes. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça ? Il fait des briques. Tout ça pour faire des briques ? Briques, vous savez ce que c'est ? Ça doit être certainement quelque chose d'assez... Vous prenez de l'argile, vous mettez dans un moule, vous tapez un petit peu dessus pour que ça soit bien, enfin que ça soit rectangulaire, et puis à ce moment-là, vous le cuisez, puis vous avez une belle brique. C'est ça. Enfin, quand je dis brique, je parle pas d'argent. C'est autre chose. Alors, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire avec nos briques ? On a un tas de briques à côté de nous, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ah oui, parce que des briques comme ça, entreposées, ça sert à rien. Ils se disent, tiens, on va faire une ville. Il faut beaucoup de briques, hein. Quand même. On va faire une ville. Et puis à un moment donné, ah, une ville, c'est pas suffisant. On va faire une tour. Eiffel, ou autre chose. Non. Ça a une même consonance. C'est pas Eiffel, je me suis trompé, c'est Babel. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est plus seulement les mains qui vont fonctionner. C'est la tête. C'est l'orgueil. Des ambitions orgueilleuses. Et ils vont faire une tour. Et ils vont se dire, dont le sommet touche le ciel. Tu sais, Seigneur, si tu veux pas descendre vers nous, c'est nous qui allons aller te chercher. On va me faire une tour si haute, si grande. On va te faire descendre du ciel, Seigneur. Ouais, Dieu, on va te faire descendre du ciel. Mais Dieu descendra du ciel. Mais il faudra attendre quelques siècles. Il viendra pas pour juger les hommes, il viendra leur apporter Jésus à travers l'évangile. Et ça, ils s'y attendent pas. À travers un enfant, un bébé. Mais dans quel but? C'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour se faire un nom. C'est pas pour, comme dans le Notre Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit sanctifié. Mais là, c'est pour se faire un nom à eux. Une crainte, par contre, c'est la dispersion. Ils ont peur d'être séparés les uns des autres. Ouais. Vous savez que l'homme a du mal à vivre seul. Hein. Et vous savez, il construit une tour, mais il ne sait pas ce qu'il en... enfin une tour et une ville. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on n'est jamais aussi seul que dans une ville, une grande ville. Eh oui. Il est en train de se renfermer dans son propre piège. La dispersion, parce qu'il se dit, dans une ville, on y trouve de la sécurité. Il y a des murs. Et puis dans une ville, il y a du plaisir. Et puis, il y a également du prestige, parce qu'il y a des belles villes, quand même le reconnaître. Alors l'homme se dit, on va se faire un nom. Et vous avez remarqué que tous les grands hommes qui sont passés conquérants et autres, empereurs, rois, ils ont tous voulu se faire des tours, des villes, des châteaux, etc., etc., en disant, je vais marquer mon temps et on se souviendra de moi. Voilà Babel, tout simplement. Et en plein accord avec la mentalité et l'esprit du monde, parce que c'est l'esprit du monde, Babel. Vous savez que Babel, plus tard, portera un autre nom. chapitre 18 de l'Apocalypse. On l'appellera Babylone. C'est pareil, hein? C'est la même chose, Babylone. Et on sait ce qui est écrit, hein? On en reparlera d'ici quelque temps. Alors, on va dire, maintenant, nous allons nous rassembler. Et c'est peut-être là qu'est née les fédérations, les confédérations, les syndicats, les associations, les sociétés, les clubs, etc., etc. C'est à partir du moment où les hommes se mettent ensemble, ça paraît bien comme ça, c'est vrai, c'est formidable. Et il y a eu des syndicats et pour de nobles causes, hein, je ne suis pas là pour rejeter l'anathème. Mais le problème, c'est que quand Dieu est absent, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut réaliser quand Dieu n'est plus là? Et quand on a mis Dieu dehors? Alors on parle d'union. L'union qui fait la force, c'est le slogan de tous les temps. Alors on érige cela, ce slogan, sur la science, sur la culture, sur le travail, sur la gloire, sur l'orgueil, le succès, la puissance qui éblouit et qui aveugle. Et c'est vrai que notre monde est un monde aveuglant, qui éblouit quand on voit les réalisations. On fait des choses formidables, moi je suis quand même, je ne veux pas dire le contraire. Quand on fait voler un avion considérable, enfin immense, comme on a vu celui qui s'est envolé dernièrement, on se dit mais c'est quelque chose de formidable, vous rendez compte, les beaux bateaux et les gros bateaux qui sont construits ici. Et puis la technologie médicale, et puis tout ce que les hommes sont capables de faire dans la haute technologie. Hein, et je me dis, mais c'est vrai, c'est quelque chose, mais il manque quelque chose. Alors on y allie la religion, on y allie la philosophie, la politique, toutes sortes de choses. Et l'homme s'affaire à construire un monde par lui-même, dans lequel Dieu n'a pas sa place, c'est bien ça le drame. Pourtant, il semble qu'il y ait des mobiles si généreux de voir les hommes se rassembler ensemble pour faire quelque chose ensemble. Ça semble bien tout cela. Mais faut pas s'y méprendre. Il est dit, ils se sont fait une tour pour se faire un nom. Et tout ce que l'homme peut faire sans Dieu, c'est tout simplement assurer ses intérêts et d'exalter finalement ce qu'il est. Ça va pas autre part. Ça va pas autrement. Et nous en connaissons le résultat final. Puisque dans 2 Thessaloniciens, vous retrouverez, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au chapitre 2, il nous est parlé de cette imposture, que finalement, eh bien, l'homme fera une caricature de Dieu. Il se dira, voilà, et ce sera l'antéchrist à ce moment-là, qui amènera un règne, un régime, qui sera un régime de mort, un régime de destruction. Voilà l'aboutissement de tout cela. Et pourtant, ça part d'une belle et d'une grande idée. Mais toutes les grandes et les belles idées sans Dieu, eh bien, elles sont faites à amener la mort et pas la vie. C'est une folie. La brique, ce n'est pas de la pierre. Ben oui, c'est deux choses différentes. Ceux qui travaillent dans la construction savaient bien que ce n'est pas la même chose. La brique n'est pas la pierre et le bitume, ce n'est pas le ciment. Le ciment, c'est autre chose. La seule et véritable association solide, fondée et qui va demeurer, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est née à la Pentecôte. Et elle demeure depuis 2000 ans. Elle a traversé tous les temps, toutes les persécutions, toutes sortes de choses. C'est celle qui est née à la Pentecôte où Dieu a édifié un temple saint dont les matériaux ne sont pas des briques fabriquées, mais des pierres vivantes, selon ce que nous dit l'apôtre Pierre, quand il dit « Vous êtes des pierres vivantes et vous êtes la maison de Dieu. » Donc, le lien du nom n'est pas une ambition de ceci et cela, mais le lien du nom, c'est pas du bitume, c'est pas du ciment non plus, mais c'est le scellement du Saint-Esprit. Écoutez, quand dans le texte de Éphésiens, il nous est dit cette parole 1:13, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Scellés du Saint-Esprit. C'est ça, c'est pas de la contrefaçon, c'est pas du bricolage. C'est quelque chose qui va bien au-delà de toutes les ambitions, de tous les régimes, de toutes les politiques, de tous les gouvernements qui puissent exister, où les hommes continuent à construire la tour de Babel, mais sans Dieu. Alors qu'à la Pentecôte, c'était autre chose. C'est autre chose. L'Église de Jésus-Christ est devenue le tabernacle du Saint-Esprit sur la terre, tandis que Babel, eh bien, finira, nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 18, par être un sanctuaire de démons. Ben oui, c'est écrit. Babel finira par être un sanctuaire, Babylone finira par être un sanctuaire de démons. Quelle différence et quel contraste! Les hommes de Babel ont voulu réaliser une fraternité durable, s'enquérir une liberté totale, faire un monde à visage humain, et le résultat, ça a été des siècles de sang et de feu. On est bien obligé de le comprendre, ça. pas trop difficile, des siècles de feu et de sang, et c'était pas le feu du Saint-Esprit, hein. Peut-être celui du fanatisme, peut-être l'ambition de conquérir de nouveaux territoires, l'orgueil de dominer sur des peuples et des nations pour en faire des empires, mais par la guerre, par des conflits, par des divisions. Mais c'est oublier une chose, c'est que hier à Babel, Dieu regardait, et aujourd'hui, Dieu continue à regarder la tour que les hommes sont en train de construire. Il nous est dit tout simplement, l'Éternel descendit pour voir. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a besoin de descendre? Hein? C'est une vue de l'esprit, ça, hein? Parce qu'il n'a pas besoin de descendre. De là où il est, il voit tout. Et il sait tout. Mais il faut bien que la parole de Dieu se mette au niveau de notre compréhension. On est d'accord. Alors l'Éternel descendit pour voir. Et voir quoi? Eh bien, il a vu une civilisation qui n'était que simplement un immense amas de briques dont chacun se dispute, ou se disputait hier et se dispute encore, toujours la possession. Et dès que quelqu'un commence à avoir un petit peu de lopin, une petite maison en briques ou autre, eh bien, il se dit « c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi ». Et malheur à celui qui veut y mettre les pieds. Que ce soit une maison, que ce soit un peu d'argent ou autre chose, l'homme est devenu son propre Dieu. Il se dit « mais tout pour moi et rien pour les autres ». Et qu'est-ce que Dieu a vu? Il a vu que finalement, à la place de l'amour, il y avait tout simplement de l'égoïsme. Point final, ça c'est notre société. Et elle existe depuis Babel. Alors le jugement est arrivé. Verset 7. Dieu s'est dit, en reprenant les mêmes mots que les hommes ont dit, « Allons et bâtissons ». Mais là Dieu dit, « Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent pas la langue les uns des autres. » L'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre et ils cessèrent de bâtir. Voilà une condamnation qui tombe du ciel pour Babel, pour le monde. Mais c'est une condamnation, mais c'est une grâce qui va venir plus tard à la Pentecôte. Parce que à Babel, ce se limite en trois mots. Confusion, dispersion et cessation. Ils ont cessé de bâtir. Mais à la Pentecôte, si nous remettons les textes les uns après les autres, il nous est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'expliquer. Or, nous lisons ceci dans notre texte, qu'à partir du verset 5 du chapitre 2, il est dit ces mots, « Il y avait en séjour à Jérusalem, c'était plus les plaines de Shinar à ce moment-là, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors ils se sont tous mis à accourir, et ils ont été confondus, ces hommes, mais pas de la même confusion qu'à la Pentecôte, qu'à Babel. Une autre confusion, parce qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue. Alors il nous est dit, il y avait des Parthes, des Mèdes, des Romains, enfin toutes sortes de gens qui venaient de toute la surface, hein, juifs et prosélytes juifs. Et les gens, à ce moment-là, qui étaient nombreux, certainement nombreux, à tel point qu'ils se disaient les uns les autres, mais comment entendons-nous ces hommes? En parlant des apôtres, les entendons-nous parler dans nos langues et dire des merveilles de Dieu, le miracle de Dieu. Les merveilles de Dieu. Ce qui hier a été un objet de confusion à Babel devient à la Pentecôte, à Jérusalem, ce jour-là, un sujet d'unification. Dispersion, désunion pour les uns et là, d'unification. C'est extraordinaire. Moi, quand je vois le texte et que je médite ces paroles, je me dis, mais Seigneur, comment tu as relevé le défi de Babel? Ils s'unissent, ces hommes, des gens de toute langue, des étrangers, venus des diverses nations de la terre. Ils sont venus, eh bien là, par petits clans, les uns et les autres. Ils ne parlaient pas la même langue à ce moment-là. Différence de race, d'origine, de mœurs. Tout les sépare. Et pourtant, il y a ce jour-là à la Pentecôte 120 personnes qui sont dans une chambre haute, pas dans une tour, dans une chambre de prière, et qui viennent de recevoir le Saint-Esprit. Et la preuve et la manifestation de ce Saint-Esprit qu'ils ont reçu qui descend du ciel, c'est qu'ils se mettent à parler en d'autres langues. Des langues inconnues qui racontent la gloire et les merveilles de Dieu. C'est extraordinaire. Quelle différence avec Babel? Ce sont deux mondes. tout à fait dissemblable. Alors à ce moment-là, il se passe aussi un phénomène qui est tout simplement la manifestation de Dieu au milieu de cette assemblée, dehors et dedans la chambre haute, c'est que les cœurs se brisent et les gens se convertissent à Jésus-Christ. Avant, ils tournaient le dos à Dieu, maintenant ils reviennent à Dieu par la personne de Christ. Un peuple est né, 3 000 âmes, nous dit le texte du livre des Actes. 3 000 âmes se sont converties. Je suppose qu'il devait y avoir beaucoup plus de monde que ça. Mais parmi toute la foule qui était là à Jérusalem, 3 000 personnes. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi si on a 3 000 personnes? Ce serait formidable. Là, on pense à envisager autre chose. Plus grand. Non, mais je ne plaisante pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Imaginons-nous un peu comment ça s'est passé ce jour-là. Et l'Église est née. C'est la naissance de l'Église chrétienne à travers le sacrifice de Jésus, à travers l'effusion du Saint-Esprit. Un peuple est né, l'Église est née. Et un mot d'ordre général retentit, comme hier à Babel, mais pas dans le même état d'esprit. Mais cette fois, au lieu de tourner le dos à Dieu, conduit les hommes à Dieu. Conduit vers le glorieux architecte, parce que la construction de Babel, c'était des architectes humains qui l'avaient fait. Mais là, pour construire cette maison spirituelle, cette tour spirituelle qu'est l'Église, il faut le divin architecte. Et ça change tout. Et le slogan qui va apparaître à la Pentecôte, c'est que tous les hommes vont se rassembler et ils vont dire, certainement comme à Babel, allons et bâtissons. Allons, levons-nous et bâtissons. Et les nouveaux bâtisseurs ne craignent pas cette fois-ci de se disperser, alors que les autres en avaient peur, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas peur? Parce que Dieu est avec eux et Dieu est en eux. La différence. Ils proclament hautement et puissamment le message de paix, un message d'amour, un message de pardon. C'est pas un message de syndicat ou de société ou de club. C'est un message d'amour. Et Jésus est annoncé par toute la terre. La guérison divine, la libération du péché, la vie éternelle, le pardon de Dieu. Tout cela fait partie du message. Alors, la ville des enfants de Dieu, parce que il est question aussi dans le livre de l'Apocalypse d'une ville, la Nouvelle Jérusalem. Vous vous souvenez de tout ça. Alors, la ville des enfants de Dieu s'élargit. La tour s'élève vers les cieux, non pas pour les défier cette fois-ci, mais pour les unir à la terre. C'est ça le message de l'Évangile. C'est pas un message de séparation, c'est un message de réunion. Unir le ciel et la terre avec le ciel. La communion fraternelle au cœur de cette construction, de cette édification du royaume, de l'Église qui est née, en tous les cas toute nouvelle naissante, eh bien ce n'est pas un vain mot, puisque dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il nous est parlé du baptême du Saint-Esprit et de la Pentecôte, et au chapitre 4, il nous est dit ces mots. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est différent de Babel. Un cœur et une âme, tout de suite après le baptême du Saint-Esprit. Alors, quelquefois, on se pose la question, mais pourquoi il y a des divisions dans l'Église? Alors, quand il y a des divisions dans l'Église, ça ne vient pas du Seigneur. C'est pas possible. Ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et si je peux me permettre de le dire ce matin, aimons-nous les uns les autres. Il y a des différences. Différences d'éducation. Il y a des différences de toutes sortes de choses. Il peut y avoir des jaunes, il peut y avoir des bleus, il peut y avoir des blancs, il peut y avoir des noirs, il peut y avoir toutes sortes de choses. Ça, ce sont des aspects extérieurs. Mais même dans notre mentalité, peut-être que nous avons des différences. Mais faisons l'effort, frères et sœurs, de nous aimer les uns les autres. C'est pas nous qui nous sommes choisis les uns les autres, mais c'est notre Père qui est dans les cieux qui nous a choisis pour que nous puissions nous entendre et marcher ensemble pour construire quelque chose et pas pour démolir quelque chose. Je le dis tout mon cœur. C'est vrai, certains pensent peut-être pas tout à fait comme moi. Bah oui, mais on est dans la même maison. C'est vrai, mais il faut apprendre à nous aimer. Et à force de nous aimer, eh bien, non pas que on va obliger l'autre à penser comme je pense et ceci et cela, mais on va regarder à Jésus ensemble. Et quand il est dit si quelqu'un est d'un autre avis, eh bien, le Seigneur l'éclairera, mais on va pas faire la guerre. Et ça, l'histoire de Babel, c'est ça. Et la Pentecôte doit nous rassembler. Conclusion, je finis, je termine. Hier, la confusion des langues et la dispersion. Aujourd'hui, Dieu donne des langues surnaturelles pour lui parler, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et on parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu. Mais Ces langues surnaturelles, nous l'avons et nous le voyons manifester dans l'évangélisation à travers les dons du Saint-Esprit, soit par le toucher, les dons du miracle, à travers les dons de paroles de connaissance et puis tout le reste, hein, mais pour parler aussi aux hommes. Ils parlèrent dans de nouvelles langues. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire, même en dépit des apparences, dans une société qui se dégrade et qui se, et là, eh bien, se disloque, et quelquefois où l'Église est touchée aussi par cette dislocation, je le dis et je l'affirme, que c'est toujours la Pentecôte. Le Seigneur est toujours le Dieu de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu souffle encore. Il remplit les hommes de la plénitude de la vie. Alors, comme Pierre, qui s'est levé entre tous, peut-être pouvait dire ce jour-là, allons, bâtissons et travaillons pour l'œuvre de Dieu. Construisons maintenant la ville de Dieu, le royaume de Dieu. Ce qui a fait dire qu'ils l'ont tellement bien fait, ces disciples, Pierre, Paul et les autres, c'est qu'à un moment, il nous est dit dans le livre des Actes, je termine, ça sera la dernière pensée que je présenterai devant vous ce matin, mais ils se sont tellement bien levés pour aller annoncer l'évangile, c'est qu'à un moment donné, le monde païen de l'époque a dit, en voyant les chrétiens, Actes chapitre 17, ces gens ont bouleversé le monde, ces gens qui sont venus jusqu'à nous. Ils ont bouleversé le monde. Alors que nous puissions dire encore aujourd'hui, parce que nous ne faisons pas parler de Babel, mais nous faisons partie de la Pentecôte, que aujourd'hui à Saint-Nazaire, dans la région, dans notre département, dans notre région, et puis par-delà dans notre pays, je crois que quand on entendra les hommes dire, les hommes de Babel, dire, ces hommes, ces chrétiens ont bouleversé le monde, alors Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux, alors que Dieu nous donne sa grâce. Et frères et sœurs, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, priez en langue. Utilisez au moins ce que Dieu vous a donné. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, bien même ce matin, Dieu peut vous baptiser du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, et c'est toujours la Pentecôte. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Bénissons-le, nous allons passer à la Sainte-Cène d'ici quelques instants, mais ayons des moments où là, il ne s'agit pas de murmurer quelques peut-être prières ou louanges timides, mais de dire, mais Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux. Nous allons le bénir. Et nous allons le louer, nous allons l'adorer maintenant quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, tu ne nous as pas pris parce que nous étions les meilleurs. Tu ne nous as pas choisis parce que nous étions certainement les plus spirituels. Mais tu as choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Celles qui se disent fortes, celles qui sont là en haut de leur tour de Babel et qui se disent nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais nous, parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes vulnérables au mal, au péché, Seigneur, que nous sommes différents les uns des autres. Alors, Seigneur, tu nous as donné, en effet, d'être rassemblés, et tu nous as donné une langue, tu ne l'as pas confondue, celle-là. Tu nous as donné des langues pour que nous puissions glorifier ton nom et parler de tes merveilles. Seigneur, je te demande de visiter mes frères et sœurs, moi-même, j'en ai besoin. Oui, dans cette église, nous en avons besoin, à Redon, nous en avons besoin. Dans notre pays, dans Bretagne, nous en avons besoin. Nous te demandons, Seigneur, que tu envoies un souffle nouveau, Seigneur Jésus. Alors nous ne voulons pas se contenter de te murmurer que nous avons besoin, mais nous voulons le crier, Seigneur. Oh, nous voulons te demander que tu envoies un souffle nouveau, Seigneur Jésus. Et donne-nous ta grâce, Seigneur. Tu vois que ton Église, ton peuple est souvent affaibli, il est, Seigneur, exsangue. Nous avons besoin d'une transfusion de vie. Nous avons besoin d'une transfusion de l'Esprit. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous ton secours et ton aide. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous parle de la Pentecôte. Merci de nous avoir fait un jour rentrer dans une église charismatique. Merci, Seigneur, pour nous avoir donné des hommes et des femmes qui ont marché devant vous et qui étaient des hommes devant nous et qui étaient des hommes de l'Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu veux véritablement que nos vieillards, nos personnes âgées aient des songes, mais tu veux aussi, Seigneur, que nos jeunes aient des visions. Que, Seigneur, ils se lèvent pour toi, remplis du Saint-Esprit. Je te rends grâce et je te remercie parce que tu nous dis que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais qui croient à ta promesse. Baptise-les du Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, révèle-toi et manifeste-toi. Seigneur, tu ne regardes pas, en effet, Seigneur, à nos cœurs. Tu nous prends tels que nous sommes. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que la Pentecôte, ce n'est pas une arrivée. La Pentecôte, c'est un nouveau départ. Et nous te bénissons et nous te remercions. Louange et gloire à toi, Seigneur, béni soit ton nom. Louange et gloire à Jésus-Christ, l'auteur de la Pentecôte, celui qui baptise du Saint-Esprit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Louange et gloire à toi. Bénissez le Seigneur, frères et sœurs. Allez-y, je vous en prie. Je crois que le Seigneur veut se manifester ce matin. Alors bénissez, n'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche et de le glorifier, de lui dire merci, de glorifier le nom de Jésus. Allez-y, frères et sœurs, je vous en prie.